Chapitre 3 Vasseuil et Ennequeville. Non point que je mis sans doute le moins du monde l'amour de Cordélia, mais j'imaginais que mon oncle ne voulait plus de ce mariage et qu'il avait arrangé l'événement pour que je comprisse de moi-même une chose qu'il aurait eu trop de peine à m'exprimer. « Ils sont partis pour longtemps ?» demandai-je d'une voix qui tremblait. Le vieux Surdon, le domestique, qui n'avait jamais été bavard, me fit comprendre par un signe qu'il n'en savait rien. Et où sont-ils allés? Un autre signe, du même genre que le premier, acheva de me désespérer. Cependant, Surdon, sans se presser, sortait une lettre de la poche intérieure de sa veste. Je la lui arrachai des mains, je décachetai et je lus. Mon cher neveu, nous sommes dans l'obligation soudaine de partir pour l'étranger. Il s'agit d'une affaire de la plus haute importance, comme tu peux le penser. Nous ferons notre absence aussi courte que possible. Cependant, je ne prévois guère que nous puissions être de retour avant 2 mois. Nous te ferons parvenir souvent de nos nouvelles par voie indirecte, parce que je tiens à ce que tu sois le seul. Surtout, garde le secret pour tout le monde. Ne t'inquiète de rien. Cordélia t'aime toujours. Vous serez mariés avant la fin de l'année. Attends-nous à Vasseuil, où j'envoie mes gens. Surdon t'appartient. Cette lettre, en même temps qu'elle me rassurait sur les intentions de mon oncle, « Vous serez mariés avant la fin de l'année », me troublait singulièrement en ce qui concernait Cordélia. Cordélia t'aime toujours. Est-ce qu'il avait besoin de mettre cela? Enfin, elle me remplissait d'inquiétude pour beaucoup de raisons. Qu'est-ce que signifiait ce voyage mystérieux? Et pourquoi des nouvelles indirectes? Mais surtout, pourquoi m'envoyait-on à Vasseuil? Tous les ans, mon oncle et Cordélia passaient leur été à Ennequeville, où ils avaient sur la route de Honfleur une magnifique propriété, le Clos Normand, qui était une grande machine toute neuve, enfin je veux dire, datant d'une 15aine d'années au plus, et où nous trouvions la chose la plus importante du monde, le confort moderne. Tandis que Vasseuil, où nous nous rendions une fois l'an, à l'ouverture de la chasse, n'était qu'une grande maison campagnarde, qui ne manquait certes point d'allure, mais fort vétuste et où l'on manquait de tout. Ce manoir m'avait toujours produit un effet des plus bizarres, avec ses grands murs pâles, sa tour de coin en se mirant dans les eaux froides de la rivière, son immense cour abandonnée, ses communs délabrés, et par derrière son parc mal entretenu, dont les allées moussues avaient une odeur de mort. Les salles intérieures, avec leurs peintures effacées, leurs plats xantins me semblaient être habités par des ombres que notre visite annuelle dérangeait. Je n'ai jamais cru aux fantômes, Vasseuil m'a toujours fâcheusement impressionné. Chose étrange, Cordélia s'y plaisait assez, y trouvant de la poésie. Quand j'analyse mes sentiments, je crois pouvoir expliquer ce malaise que Vasseuil me causait, par le fait qu'étant d'une santé robuste et d'un esprit parfaitement sain, je trouvais insupportable tout ce qui autour de moi ne se présentait pas avec les mêmes vertus de solidité. Vasseuil n'était pas une chose bien portante, cela suffisait à me la faire prendre en grippe. Que fût-ce lorsque j'y me retrouvais sans Cordélia, avec le vieux Surdon et sa femme Mathilde? J'ai dit que Surdon n'avait jamais été bavard, mais Mathilde avait toujours eu la langue bien pendue. Elle nous avait connus tout petits et nous aimait beaucoup. Depuis des années, elle se réjouissait de notre mariage. Je ne fus pas plus tôt arrivé que, la prenant à part, je lui demandais sans détour tout ce que cela signifiait. Elle poussa un soupir et se sauva. Je courus et la rattrapai par sa jupe. Elle se mit à pleurer. « Monsieur Hector, me dit-elle en se mouchant, je vous jure qu'il n'y a rien, c'est une idée du maître d'habiter ici. Il ne nous a pas consultés, bien sûr. Eh bien, Si cela lui plaît, qu'il y vienne au lieu de courir l'Europe et de me priver de Cordélia. Quant à moi, je m'en vais. Et où donc? À Enqueville. Je n'eus pas plutôt prononcé ces derniers mots que Mathilde montra une agitation extrême. Non, 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 il ne faut pas aller à Enqueville. Monsieur ne serait pas content. C'est une idée qu'il a comme ça. C'était une Rouennaise du quartier de Darnetal. C'est têtu et madré. Je compris que je n'en tirerais rien. Mais je résolus d'aller à Enqueville. J'y fus dès le lendemain. J'y arrivai vers 6 heures du soir. Mon Dieu, que cette campagne me plaisait et que ce domaine avait d'agrément. Ah, certes, avec la verdure lustrée de ces plantures aux herbages, l'encadrement odoriférant de ces haies en fleurs, Enqueville n'avait rien de fantomatique. Et cependant, quand j'aperçus tout à coup, au détour du chemin, la maison fermée, mon cœur se remplit d'angoisse. Jamais la belle demeure ne m'avait accueilli avec un pareil visage de bois. Quelle étrange impression je reçus de ces persiennes closes et de ces portes verrouillées. Combien j'étais loin de l'accueil de jadis. Où étaient-ils les rires et les baisers de Cordélia sur ce seuil chéri? Aucun écho d'autrefois, la maison ne me connaissait plus. J'appesantis mon front sur la grille et je restai là des moments que je ne saurais mesurer en proie à la plus sombre mélancolie. Le soir était tombé sur ces entrefaites et quand je relevai la tête, je ne fus pas peu étonné d'apercevoir à quelques pas de moi une ombre qui eût pu me paraître être mon ombre tant son geste reproduisait le mien. Elle aussi poussa un soupir. J'en fus comme saisi d'effroi. Mais mon étonnement ne fit que grandir quand j'entendis cette ombre exprimer tout haut ce que je ressentais tout bas, en des termes que je ne saurais reproduire exactement, mais qui traduisaient admirablement ma pensée. L'ombre expliquait qu'il était impossible à une âme douée de quelque sensibilité de passer devant ce joli domaine sans s'y arrêter au moins le temps de regretter que toute la vie d'élégance et de plaisir pour laquelle il avait été créé, parut s'en être enfui pour toujours. À quoi, un peu interloqué, je répondis en me mentant à moi-même, car je le répète, mon impression avait été la même que celle de l'ombre, je répondis qu'il n'y avait aucune raison pour que cette demeure momentanément close ne se rouvrît point quelques jours et ne se remplit à nouveau de bruits joyeux. Mais l'ombre poussa encore un soupir, secoua la tête, prononça un mot qui me fit frissonner, jamais, et glissant derrière le mur, disparut. Je quittai ces lieux plus triste que je n'y étais venu. Cette singulière rencontre avec un étranger qui paraissait animé d'une émotion étrangement sœur de la mienne m'avait bouleversé à un point dont je ne me rendis point compte tout d'abord. Mais en descendant la côte qui me ramenait dans la vallée de la Touque, je crus reconnaître devant moi l'ombre qui avait parlé tout haut à mes côtés, et je me mis à courir pour la rattraper. Je la rejoignis devant un cabaret, dont la porte entr'ouverte laissait passer une bien pauvre lumière, suffisante cependant pour que je pusse distinguer quelques traits du personnage qui se retourna à mon approche. Ce qui me frappa tout de suite en lui, en dehors de sa beauté certaine, ce furent ses yeux, ou plutôt leur éclat. Il paraissait briller dans la nuit. Il n'y a que certains yeux d'albinos pour m'avoir produit un effet approchant, ou encore les yeux des chats qui distinguent la nuit des choses que nous n'apercevons point. L'homme était sorti de la lumière que je voyais encore ses yeux brûlés sur la route. Je voulus lui parler, mais je n'en eus point la force. Je restai là, comme étourdi, pendant qu'il s'éloignait. L'air frais du large vint heureusement me balayer le front. Quelqu'un me parla, c'était le cabaretier. J'entrai chez lui. Je lui demandai s'il connaissait l'homme qui venait de passer devant sa porte. Il me répondit que c'était un peintre célèbre en Angleterre et que l'on disait de lui, dans ce pays-ci, qu'il était un peu toqué. Chapitre 4. Le mariage d'Hector et de Cordélia. Quand je revins à Basse-Cueil, une lettre m'y attendait. Elle venait de Paris et je ne me connaissais point l'écriture de la suscription. Dans l'enveloppe, je trouvais un mot de mon oncle qui m'écrivait à la hâte du fond du Tyrol. Le Tyrol, mais on ne va point dans le Tyrol pour affaire. Quelle raison avait-il de se promener dans le Tyrol avec Cordélia pendant que je les attendais dans cette triste maison? Il ne m'en disait rien. Il me donnait une adresse. « Écris-nous le plus souvent possible, me disait-il, écris-nous tous les jours. En attendant notre retour, je vais te donner de quoi t'occuper. Tu vas remettre Basse-Cueil à neuf, avec tout le confort moderne. Je m'en rapporte à toi. Meuble-le comme il te plaira. Il vous appartient, à Cordélia et à toi. Je le dépose dans la corbeille de noces. C'est à Basse-Cueil que vous vous marierez. Je sais que la propriété ne t'a jamais beaucoup séduit. Fais en sorte qu'elle te plaise. Mais ne touche pas au parc. Ce sera l'affaire de Cordélia. Elle a des idées là-dessus. Nous t'embrassons fort. » Et pas un mot de la main de ma fiancée. Mais pourquoi ne m'écrivait-elle pas? Est-ce qu'elle ne m'aimait plus? Depuis le voyage à Hennequeville, sans savoir exactement pourquoi, je ne cessais de me poser cette horrible question. J'écrivis là-dessus à mon oncle et l'entretins de mon inquiétude. Je lui déclarai que j'étais incapable de m'occuper de quoi que ce fût au monde avant de savoir à quoi m'en tenir sur l'amour de Cordélia et que je ne pouvais être tranquillisé que par elle-même. Je restai 15 jours sans réponse. Je passai ces 2 semaines comme une brute à attendre le facteur. Je faisais pitié à Surdon et à sa femme qui essayaient par instants de me raisonner et que je n'entendais même point. Enfin, la lettre arriva. Toujours l'enveloppe de Paris. Comme je l'arrachais. Une lettre de Cordélia, c'est-à-dire une ligne. Mais oui, je t'aime toujours, mon bon Hector. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. En voilà des idées. Deviens-tu fou? À bientôt, mon cher mari. Eh bien, voilà une lettre qui ne me contenta point du tout. Je t'aime toujours, mon bon Hector, me paraissait comme une sorte d'emplâtre sur ma douleur. Ce n'était point ce que je demandais, et même « à bientôt, mon cher mari » ne me réchauffait nullement. J'écrivis à Cordélia toute ma détresse. Sur mon papier, je pleurais comme un gosse, en lui rappelant nos serments, et je l'assurais que je préférerais mourir de désespoir plutôt que de conduire à l'hôtel une Cordélia qui ne m'aimait plus autant que dans ce moment-là. Alors, quelques jours plus tard, je reçus 8 pages de Cordélia, 8 grandes pages, qui cette fois me firent pleurer de bonheur. J'y retrouvai ma petite compagne d'autrefois, avec toute sa fraîcheur, sa spontanéité, sa joie de vivre à mes côtés, ses malices adorables. Elle semblait s'être replongée dans le passé avec une frénésie qu'elle voulait me faire partager. Elle n'y eut point de mal. Et puis, brusquement, après d'aussi chers souvenirs, elle parla du présent avec une confiance qui me rendit sur l'heure ma belle santé physique et morale. Elle se promettait des joies enfantines de notre mariage. Elle me parlait de notre installation à Basse-Cueil, avec des détails qui me le firent subitement aimer. Elle me disait « Tu verras comme Basse-Cueil sera joli, quand nous l'aurons arrangé à notre goût tous les deux. Tu vas courir à Paris, tu achèteras tout ce que je vais te dire. Ici, la liste des achats. Il faut que tout soit prêt à notre retour, car papa veut nous marier tout de suite. Ce n'est pas moi qui le contrarierai. Ah, pendant que j'y pense, ne touche pas au parc, tu ne l'as jamais compris. Il a sa beauté particulière que je me réserve de mettre en valeur. J'en ferai le jardin de Péléas et de Mélisande. Nous nous y promènerons dans nos heures de mélancolie, car on a beau être heureux, on a des heures de mélancolie, ce qui n'est du reste pas désagréable du tout. En attendant ces moments-là, je voudrais que nous fissions notre voyage de noces à cheval comme deux fous. Tu te rappelles que nous avions rêvé d'un voyage pareil quand nous étions tout petits et que nous nous moquions des bourgeois qui prenaient le train? Mais tu verras que nous prendrons le train comme tout le monde. Qu'est-ce que cela fait au bout du train? Il y a une gondole. Nous irons à Venise. Ah, ça a toujours été bien entendu. Le Tyrol est affreux, il n'y a que des montagnes, et je déteste les montagnes, surtout quand elles me séparent de toi. Et pendant 8 pages, cela continuait ainsi. « Chère, chère, chère Cordélia, comment pouvais-je douter de toi, de ton cher petit cœur, de ton cher petit cœur? Viens vite à l'ouvrage, à moi les maçons, les peintres et tout le tremblement, comme dit mon oncle. » J'activai le zèle de tous par ma bonne humeur et mes largesses. J'étais fait moi-même comme un gâcheur de plâtre, et Surdon en riait silencieusement quand il me tendait la bolée de cidre doré que j'avalais d'un trait pour montrer aux autres que l'on pouvait faire honneur au broc. J'avais bien fait de me presser. Mon oncle et Cordélia arrivèrent 8 jours plus tôt qu'ils ne l'avaient annoncé. Je les attendais vers le 8 octobre et ils débarquèrent à Vascoeuil fin septembre. Tout n'était pas fini. Cordélia me trouva au haut d'une échelle, posant le papier de son boudoir. Je tombai dans ses bras. Elle me supporta très bien en disant « Dieu, qu'il est laid !» J'eus un mouvement qui déchaîna son rire. J'avais cru qu'elle parlait de moi, et il ne s'agissait que du papier. Il n'en fallut pas davantage pour nous mettre dans une gaieté qui attira mon oncle. Il nous bénit, nous embrassa, nous rebénit, nous conta qu'il s'était marié lui-même dans cette maison, que Cordélia y était née, que mes enfants y naîtraient et nos petits-enfants aussi. À quoi Cordélia, qui ne l'écoutait pas, répliquait « Dieu, que ça sent bon la peinture ici! Tiens, vois-tu, papa, maintenant je ne veux plus faire que de la peinture en bâtiment. Qu'est-ce que tu en dis ?» « Oh, je t'approuve, ma fille, oh, comme je t'approuve, voilà qui est sain !» J'étais un peu étonné de l'entendre parler ainsi. J'avais toujours entendu dire que la santé des peintres en bâtiment courait de grands dangers à cause, je crois, de la céruse, et je présentais l'objection à mon oncle, qui me donna une bonne tape dans le dos pour tout réponse. Quelques instants plus tard, il me disait avec un bon sourire, « Tu es toujours le meilleur des lecteurs, ne change jamais. » Je ne savais pas pourquoi il me disait cela, car je n'avais pas l'intention de changer. Et puis en y réfléchissant, j'ai compris depuis qu'il devait trouver en moi une simplicité qui lui plaisait, un esprit tranquille et pondéré, qui ne cherche point, comme on dit, midi à 14 heures, et qu'il me conseillait pour notre bonheur à tous d'en rester là. Les 3 semaines qui suivirent passèrent vite et d'une façon si heureuse que je me les rappelle comme étant les meilleures de ma vie. J'avais chassé de mon esprit toute préoccupation qui n'avait point de rapport avec les plaisirs de la journée, lesquels se résumaient, pour Cordélia et pour moi, à faire enrager tout le monde, à nous cacher derrière les portes, à nous poursuivre comme des écoliers, et à nous embrasser, si bien que Cordélia, toute rouge, m'écartai gentiment en me disant « Hector, laisse-en, laisse-en pour demain. Cher, cher, cher Cordélia. » Quand elle était arrivée, je l'avais trouvée un peu pâlotte, surmenée sans doute par le voyage. Maintenant, elle avait repris de belles couleurs. Elle était toujours aussi fine, mais je voyais bien qu'aucune des beautés naturelles de la femme ne lui manquait. Je ne saurais comment vous dire cela. Pour moi, il n'y avait jamais eu de plus belle femme sur la terre, et mon avis n'a point changé là-dessus. Son esprit et son corps, tout était divin. Je ne saurais en dire davantage. Enfin, le grand jour arriva. Ce fut une cérémonie admirable dont on parla longtemps à Vasseuil. Le père de Cordélia, qui était un grand propriétaire terrien, avait invité tout le département à la mode de son temps. Je veux dire que tous les châteaux des environs étaient représentés à la noce. Il y avait là de grands noms et de grosses fortunes. Tout ce monde fut traité avec magnificence. Mon oncle eut voulu que la fête durât 3 jours, mais il céda aux instances de Cordélia, qui déclara que si tous les invités n'étaient point partis, après 6 heures du soir, nous nous en irions. Le déjeuner fut, selon le désir de Cordélia, appelé lunch, c'est-à-dire... Mais quel lunch! Tout ceci, du reste, n'était rien en comparaison de ce qui se passait à 500 mètres de là, chez le principal fermier de mon oncle. On avait dressé des tentes dans un immense clos, et là-dessous, toute la paysannerie se comportait puissamment comme aux noces de Gamache. Cordélia fit gentiment le tour des tables, sans montrer aucun écœurement de cette mangeaille, ce qui me plut beaucoup. Je la suivais comme un toutou. Chacun disait autour de nous « Oui, ils sont pas fiers, qu'ils soient heureux !»